Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Et bien voilà, en ce dimanche 25 décembre 2022, je suis heureuse de vous retrouver et de vous emmener en balade dans la France fantastique, magique, féerique, au travers de 40 itinéraires très particuliers au pays des fées et des fantômes et des lutins et des êtres un petit peu particuliers. C'est un véritable livre qui vous propose de belles balades. C'est une belle encyclopédiste, un livre enchanteur avec des histoires enchantresses et puis avec un auteur tout autant passionné, avec un nom qui fait rêver. Il a un nom pour moi presque de prince charmant. Bonjour Dimitri de la Roque-la-Tour.
Bonjour Claudine Buga, merci beaucoup. quelle intronisation.
Voilà, je suis donc heureuse de vous accueillir pour votre livre La France fantastique aux éditions Gallimard, 40 itinéraires au pays des fées. Alors, on va un petit peu parler de vous. Vous êtes photographe passionné de photos. Les photos, je précise, qui sont dans cet album sont de vous. On peut voir d'ailleurs plusieurs expositions de votre fait au travers de la France et ça, on va un peu en parler. Vous avez aussi, si ma mémoire est bonne, un aïeul célèbre, un peintre, si je ne m'abuse. Bref, tout concourt à faire de cette émission une émission féerique avec la magie de Noël en plus. Alors, tout d'abord, pourquoi ce livre? Je suppose que c'est l'aboutissement de belles balades, de rencontres et d'observations.
Oui, c'est presque des mémoires d'enfants, oui. Puisque tous ces lieux ont été parcourus dans une période d'enfance puis d'adolescence. Et c'est avec un regard qui, vous l'avez évoqué, forgeait notamment le regard, illuminé grâce à cet oncle peintre,
oui.
Qui a peint notamment la Dame Blanche, l'Abbé de Mortemer,
oui.
Entre autres tableaux de figures, oui. Enchanteresses comme la fée Mélusine.
Oui.
Et donc c'est véritablement un guide, c'est presque un guide pour retourner en enfance dans ce pays merveilleux.
Oui.
Donc vous dire combien de temps ça a pris, ce sont évidemment des il y a la période de la recréation littéraire, mais c'est toute l'enfance qui est dans ce livre.
Oui. Surtout que votre enfance, vous l'avez baladée entre la Normandie et la Vendée, hein, pays des fées, des châteaux et des choses fantastiques également, des territoires merveilleux.
Oui, la Normandie qui est la région, si l'on peut dire, des Dames Blanches, en tout cas de la Dame Blanche,
de la ville
de mer.
Oui.
Parce que quand on est enfant, on nous raconte des contes et légendes et on a tendance à incarner. Et pour moi, la Dame Blanche était celle de Mortemer dans la forêt de Lyon. C'est en Vendée, elle était le pays de la fée Mélusine, évidemment, le bas Poitou. Mmh. On retrouvait, il y a d'autres personnages hein, qu'on
bien
rencontre,
sûr. Les nuits
de pleine lune et même en plein jour, du côté de Saint-Benoît, un lapin qui fume la pipe sur le toit d'une église, une bête, un ours du trousse-poil. Non, il y a une foule, en somme, l'invisible est très peuplée en France.
Oui.
On aurait tendance à penser qu'il est davantage en Angleterre ou en Écosse. Mais en France, il y a beaucoup, c'est très habité.
Oui. Alors vous dites aussi, ça apparaît derrière un buis, derrière un arbre, à une fenêtre, au fond d'un jardin, entre le crépuscule, une forme de lumière divine, comme ça, ils apparaissent, ils sont là, ce sont des visages. Mais alors, est-ce que tout cela est donné à tout le monde ou est-ce qu'il faut une forme d'imaginaire, avoir un esprit un peu particulier, un peu comme ça, un esprit, rester très enfant sur les contes et légendes, est-ce qu'il faut garder cet esprit-là ou ça peut être donné à tout le monde?
Bon, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas du tout de vision ou de dogme à propos de tout ça. C'est vrai qu'il y a, d'après ce que j'entends, alors évidemment j'écoute les témoignages de ceux qui perçoivent, parce qu'il y a, comme vous dites, il y a des personnes qui perçoivent, d'autres qui... Peut-être parce que justement elle n'ose pas y croire, en somme rejette inconsciemment.
Bien sûr.
En tout cas, de mon côté, je n'ai pas suivi d'enseignement. Je n'ai pas, si vous voulez, je n'ai pas été à l'école des sorciers. Donc, je dirais qu'il y a une éclosion naturelle de certaines choses,
oui.
ou au contraire plutôt de pétales qui ne se referment pas. Voilà,
oui.
C'est plutôt l'inverse. Je crois qu'évidemment, quand on est enfant, on croit à tout.
Bien
Et
sûr.
puis ensuite, bon, on voit que certaines choses, effectivement, ont plus de portée que d'autres. Et je crois, mais je n'ai pas d'enseignement du tout à donner. C'est juste une impression, mais qu'il ne faut pas se refermer. Il faut suivre. Vous savez, dans les légendes, les contes et légendes, il y a régulièrement l'idée de la biche blanche ou du
Bien
cerf
sûr,
blanc qui
tout
est
à fait.
cet animal fabuleux que le chasseur qui est venu pour chasser, eh bien, finalement, suit cet animal qui compte lui aussi tirer à l'arbalète, si on peut dire, et puis arrive tout d'un coup dans ce, c'est pas tout d'un coup, d'ailleurs, c'est au fur et à mesure, il arrive au milieu de ronces, de taillis, il perd toute notion du temps et de l'espace, et il arrive face au château merveilleux avec, parler des fées à chaque fenêtre.
Bien
Donc,
sûr.
Voilà, je pense qu'il faut simplement suivre ce chemin un petit peu caché entre les ronces et se laisser porter par ses souvenirs d'enfance, oui, quand
Oui,
on peut
tout à fait.
les ressusciter.
Alors, 40 itinéraires fantastiques, alors ça nous emmène dans la forêt de Brocéliande. Bien sûr, il y a la Touraine, il y a le Valois, il y a également le Périgord, nombreux châteaux, hein, au détour d'une petite route, ces merveilleux châteaux. Alors, vous aimez aussi les châteaux en ruine parce qu'il y a une histoire, et puis aussi ça laisse recours à l'imaginaire. Cette attirance du château dans l'itinéraire en France, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des tas de régions qui ont de belles choses. Il suffit de peu de choses pour les découvrir.
Oui, et je dirais presque qu'elles ne sont pas, les châteaux en ruine ne sont pas, peut-être pas si en
Si
ruine
en ruine que ça, oui.
ce qu'on croit, parce qu'il y a, alors là, c'est un conte de George Sand,
Oui.
le château de
Château de
Pixdordu,
Pix, oui.
mais je retrouve, on pourrait peut-être appliquer cette situation à d'autres aventures en France, mais
Oui.
c'est une petite fille, notamment, alors ça, elle doit aller se faire un trajet dans les Cévennes, et puis tout d'un coup, la calèche est arrêtée, alors c'est le On dit que c'est le fantôme qui a perturbé, évidemment, le fantôme voulait absolument que la halte soit faite dans ce château, qui effectivement, aux yeux de la jeune fille, est une ruine. Mais la nuit, elle est réveillée par l'esprit du lieu, et tout d'un coup, elle découvre la salle de bal, elle découvre des tas de choses qui s'animent. Donc, vous voyez, là encore, il faut entrer peut-être dans la doublure du lieu, si on peut appeler ça comme ça, le double, ce qui est beaucoup plus beau dans. Alors, je ne sais pas si c'est l'imagination, là, évidemment, il faut laisser les choses entre l'idéalisation, l'imagination, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que la France est. Et ça a été l'objet de ce guide, notamment de présenter des lieux qui ne sont pas notés,
Oui.
ou en tout cas tambour battant sur des cartes ou dans des
Répertorié.
guides touristiques. Et parfois, ils sont même oubliés des panneaux qui signalent des monuments historiques en bordure des routes. Et donc, il faut vraiment les connaître, il faut les appréhender, il faut justement peut-être les idéaliser et puis venir ensuite les visiter avec dans sa tête tout ce monde de fêtes. Et là, on peut être invité par le génie du lieu à en voir davantage.
Et en même temps, c'est la chasse de l'inconnu. Et de cette chasse de l'inconnu, on arrive à l'histoire, tout simplement, tout banalement.
Oui, l'histoire finit toujours par nous rattraper, même s'il y a parfois. C'est l'histoire et la géographie, parce que c'est vrai qu'on se rend compte. Et d'un point de vue peut-être plus physique, que la plupart des histoires, alors ce sont généralement des histoires de fantômes, vous savez, ou de phénomènes un petit peu effrayants, ou en tout cas ou sonores, c'est parfois des croisements. Alors les géologues étudient ça et voient que ce sont des croisements de lignes d'énergie, tout simplement là où ont été édifiés les premiers temples à l'origine païen, donc les cercles de pierre,
tout à fait,
ensuite devenus
comme il y en a en Écosse, hein, par exemple vers Inverness, par exemple,
et avec la christianisation, nombre de sites païens sont devenus, eh bien, des églises, des chapelles, comme en Bretagne, et on voit donc à ces croisements de forces, alors je ne sais pas comment les appeler, mais il se passe des choses particulières. On recense parfois un nombre de cas peu plus important quand même de troubles psychiques pour ceux qui évidemment peut-être ne savent pas tellement ce qui les prend. Enfin, il se passe quelque chose. À l'inverse, il y a aussi des bonnes choses. Il y a des guérisons, il y a des choses inexpliquées. Donc voilà où l'histoire et la géographie, en tout cas la géologie, peuvent peut-être s'entremêler. Il y a des endroits où il se passe quelque chose. Alors, vous dire quoi précisément,
Oui,
évidemment, je ne sais pas. Mais
bien
il se
sûr.
passe. Visiblement quelque chose.
Alors, hors antenne, on parlait de Montargis, puisque nous sommes dans l'Orléanais, et vous me disiez qu'il y avait des choses très intéressantes dans cette belle région du Centre-Val-de-Loire, d'où à cause ou d'où la profusion effectivement de châteaux et de belles histoires et de l'histoire avec un grand H. Donc forcément, il y a de histoires, des choses fantastiques.
Oui, il y a notamment dans tout le, je dirais, l'Orléanais, il y a la chasse fantastique de Thibaut le Tricheur de Chambord qui, évidemment, a eu quelques choses un peu avec la damnation éternelle et qui se promène certains les nuits d'automne dans le ciel au-dessus de Chambord, mais toute la province. Mm-hmm. J'ai particulièrement visité l'Anjou, la Touraine, donc l'Orléanais du côté de Fougères-sur-Bièvre, qui est un château ayant plus ou moins appartenu à la Fémélusine, en tout cas elle y est passée pour avoir était la figure tutélaire d'une des familles propriétaires du château. Mm-hmm. Donc il y a effectivement, en suivant la Loire, un ruban enchanté de et la figure de Foulque Néra aussi, qui a vécu donc au XIe siècle. Là, évidemment, personnage historique où la légende le voyait en tant que faucon noir, si bien pour sa physionomie, il avait un teint assez foncé, mais aussi par ses méfaits. Il a fait brûler sa femme parce qu'il l'accusait d'adultère, ne lui ayant pas donné l'enfant, le mâle qu'il espérait. Le feu s'est propagé à toute la ville d'Angers, donc il a cru que c'était une damnation. Il a multiplié les pèlerinages à Jérusalem en revenant et continue à faire des choses épouvantables. Donc il repartait à Jérusalem, enfin vous voyez. Mmh. Et dans tous les châteaux, et ils sont très nombreux évidemment, les châteaux de Foulque Néra. Alors, en tout cas, les fondations, ils ont été reconstruites. Oui. Mais il y aurait un petit faucon noir qui apparaîtrait parfois à l'entrée de certains souterrains. Il se poserait notamment à Montbazon, le donjon de Montbazon. On l'a vu là plusieurs fois. Donc, toutes les constructions du faucon noir sont encore fréquentées bizarrement.
Alors, on s'aperçoit aussi que les fées, les légendes, il y a eu aussi des régions, il y a eu des sorcières. Mais les sorcières n'étaient pas forcément toutes mauvaises. Elles avaient aussi leur attribution, comme les fées ou comme les dames blanches ou autres. Mais on s'aperçoit que finalement, toutes ces légendes dans notre beau pays de France, il y en a aussi bien au 1er siècle qu'au 5e siècle, qu'au 17e ou 18e siècle. Et tout au long de ces parcours, il y a des histoires communes et des histoires différentes en fonction aussi des régions. Mais il y a aussi le fait que des châteaux ont été détruits, d'autres ont été reconstruits dessus, mais qu'il y a des choses qui subsistent malgré tout de ces histoires anciennes tout au long des siècles.
Oui, il y a presque un transfert de matériaux. Oui. Alors pour parler des pierres, certaines pierres qui peuvent servir, par exemple, vous savez que la filature Levavasseur, donc, qui se situe en Normandie, dans la vallée de l'Andelle, qui est tout proche d'une abbaye, une belle abbaye cistercienne qui a été construite donc au Moyen-Âge. À un moment donné, elle a été rachetée par un entrepreneur qui avait construit la filature et qui a donc pris les pierres de l'abbaye pour construire la filature à côté. Et la filature a été donc réputée maudite, elle a brûlé 3 fois. Et parce qu'elle elle est construite en partie avec les pierres de l'abbaye. Donc effectivement, quand on prend quelque chose pour le déposer ailleurs, il y a comme quelque chose qui s'attache à la pierre, et même des poutres. On parle souvent des abbayes avec pourquoi le bois parlerait particulièrement. Eh bien, il y a certaines des histoires de vaisseaux. On a démantelé certains vaisseaux de guerre avec évidemment pour mettre ensuite les poutres dans les abbayes cisterciennes, ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a certaines choses enregistrées, notamment par le bois, la pierre, l'eau, qui sont des matières, je dirais, nobles et qui ont cette netteté d'enregistrement et qui peuvent ensuite restituer. Alors là, je dirais que c'est presque de la physique, mais elles peuvent restituer certaines choses, certaines ondes à des personnes, comme on disait au début, peut-être plus sensibles que d'autres, mais pas forcément. Il peut y avoir des cas de stupeur. Mais le lieu, l'humidité aussi.
Le lieu subsiste de toute façon. Le lieu subsiste. C'est ce qui s'est un petit peu passé à Clairvaux. L'héritage de Clairvaux venait de bateaux au niveau des transepts et des poutres. Et bien souvent, les moines avaient ressenti des choses. Et après, bon, c'est devenu une prison. Mais il y a toujours quelque chose qui a subsisté au travers du bois et des poutres qui avaient été transférés du bateau vers Clairvaux.
Oui. Voilà. C'est un phénomène qui est passionnant et qui ouvre justement la voie à d'autres pensées, à d'autres aventures. Effectivement, entre la physique et puis le disons presque le surnaturel, mais oui. Il y a évidemment des transferts de, je ne sais pas, on pourrait dire d'énergie. Hein. Si on suit la physique en disant rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme,
on y est. Alors, c'est un album avec des photos magnifiques hein, dont vous êtes l'auteur à part entière, avec bien sûr des textes s'attachant à chacun. Il faut forcément faire des choix quand on fait ce genre de livre. Quels sont vos critères de choix? C'est par préférence, par goût, par un souvenir plus fort? Comment ça se passe?
Oh oui, c'est il y a évidemment, pour la majorité, ce sont des lieux que j'ai évidemment visité enfant, donc oui. Il y a certaines atmosphères, notamment en juillet. Vous savez, quand on visite des lieux en juillet, on les sent avec un plaisir décuplé par cette saison, par l'harmonie qui règne. Quand on les visite en hiver, on en a un souvenir un peu plus glaçant, mais qui est
différent,
pas,
mais qui peut être très beau aussi, bien sûr.
Pas moins intense. Donc je dirais qu'il y a justement des lieux qui peuvent s'accorder avec une certaine vision romantique, et notamment dans leur ensuite leur traitement photographique, en tout cas la manière de les représenter, qui suivent un petit peu cet idéal c'est l'idéal, vous savez, un petit peu des gravures de Gustave Doré, pour essayer de trouver cette note, de se fondre dans cet inconscient qui nous fait, quand on voit un château en ruine en noir et blanc au milieu des ronces, tout d'un coup on relie ça donc à une figure un petit peu éternelle. On voit le barde qui surgit, qui enseigne aux jeunes chevaliers. Donc il y a effectivement une part d'imagerie. Il fallait se fondre dans cette imagerie. Mais bon, ce sont aussi des lieux pour lesquels j'ai eu donc souvent j'ai eu l'impression de reconnaître, comme on dit, de les avoir déjà connus. Vous savez, bon, ben ça c'est l'image poétique. Bon.
Tout à fait.
Quand on est enfant, j'ai découvert notamment à l'époque, c'était un livre La France hantée, Voyage d'un chasseur de fantômes de Simon Marsden, donc évidemment un Anglais qui était venu en France traverser et vraiment essayer de voir les choses en tant que chasseur de fantômes, précisément. Ouais. Lui avait une obsession pour ces images de la mort, évidemment, ce qu'on devenait ensuite pouvait rester de nous. Mmh. Et en lisant ce livre, j'avais une dizaine d'années, et évidemment, la plupart des lieux, on n'en retrouve pas tous, évidemment, mais certains dans le livre, ont été tellement idéalisés année après année que quand j'ai pu m'y rendre ensuite, j'étais tellement heureux, euphorique de traverser enfin le miroir. En somme, ces lieux m'habitaient, me hantaient depuis tellement longtemps. Il y a en même temps les lieux qu'on dit hantés, que les légendes disent hantés, et puis les lieux qui ont hanté l'auteur du livre.
Oui, je vois. Mais en lisant votre livre, par certains moments, je ne sais pas pourquoi, ça va peut-être vous paraître idiot, j'ai pensé à Mary Poppins, vous savez, quand elle se fond dans le tableau. Et il y a des endroits, je me suis dit, je voudrais me fondre dans l'image pour y être. Et j'ai pris des notes, et j'espère que ce sera pareil pour les auditrices, auditeurs, en disant, voilà, cet endroit-là me touche plus, il m'atteint plus pour telle et telle raison. C'est aussi important, le ressenti, comment réagissent les gens face à votre livre? Tout d'un coup, ils ont envie de prendre le sac à dos, leur bâton de marche, les chaussures, et puis s'aventurer vers ces lieux mythiques ou magiques ou féeriques. Comment ça se passe, la rencontre?
Ah oui, il y a plusieurs façons. Dès le lendemain de l'apparition, certaines personnes ont même envoyé des photographies. On les envoyait. Je suis, par exemple, sous le chêne en forêt de Meudon, là, je parle de chaîne d'émission, j'ai l'intention d'aller voir tous les lieux dont vous avez parlé.
Donc,
effectivement, il y a la version immédiate d'appliquer, de suivre les itinéraires prescrits, si on peut dire. Et il y a d'autres, en plus, comme évidemment la période maintenant est un petit peu plus frileuse, d'autres manières de le lire au coin du feu, et comme vous dites, certainement de se fondre. C'est vrai, on m'a souvent demandé, c'était une question récurrente, si je jouais, ou si je pratiquais le jeu de rôle, si j'étais rôliste. Je m'y attendais, et j'espérais presque cette question, effectivement, de montrer que ce livre était, comme on dit, interactif, ou en tout cas que il proposait, et il fallait, comme vous dites, s'enfoncer dans les images, presque un peu comme des images lenticulaires. Donc vous savez que si on les regarde d'un certain angle, elles changent et elles suggèrent complètement autre chose, en tout cas l'image. On retrouve ça dans certains manuscrits, le livre de Kells, irlandais, celtique, où tout d'un coup des motifs, des dessins d'animaux forment des plantes, les plantes forment des oiseaux. Donc cette idée presque je vais pas dire de métempsycose, parce que là, on s'éloigne,
oui.
mais vous voyez, d'une grande fluidité dans le passage d'une dimension à l'autre, véritablement de passer, de suivre cette fameuse biche blanche
oui.
et d'arriver dans cet espace où tous les espaces et tous les temps se rejoignent. Et c'est un petit peu aussi, je dirais, comme, et je dis ça parce que c'est une légende, le mythe d'Orphée et d'Eurydice,
oui.
on retrouve cette idée, alors je ne sais pas si c'est le poète, en tout cas, qui charme les pierres, les plantes, même les morts, et puis qui arrive dans le monde des enfers, mais évidemment, sa compagne lui est rendue uniquement s'il ne se retourne pas.
Mm-hmm.
Et malheureusement, on connaît l'histoire,
il se retourne.
Mais, et on retrouve cette légende, notamment en forêt de Rambouillet,
oui.
la pierre Ardou, qui est le plus grand mégalithe d'Île-de-France,
oui.
et on trouve là aussi au Moyen-Âge un certain Thibaut, et une dame blanche lui est apparue près de cette pierre en lui disant, je vais te montrer un trésor, je vais te proposer, te le donner, tu vas me suivre, mais il ne faut surtout sous aucun motif te retourner. Et il s'est retourné, il est mort quelques jours après, dit-on, de folie. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les différentes dimensions d'un mythe. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure certaines choses sont déformées. En somme, je pense que tout ça répond aux grandes questions fameuses, où qui sommes-nous, où allons-nous,
d'où venons-nous,
que restera-t-il de nous,
que restera-t-il, oui, tout à fait.
On essaye de rejoindre ces grandes questions existentielles, évidemment.
Bien sûr. Les dames blanches, j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout, en tout cas plusieurs en France, parce que moi j'ai eu l'occasion d'aller dans une région que j'aime beaucoup, c'est la Dordogne, le Périgord aussi, pays de légendes, pays de châteaux, pays de féeries aussi en tout genre, pays de sorcières aussi. Il y a notamment, vous parlez, je crois de comment, Marquessac, je crois que je connais assez bien dans votre livre. Et il y a aussi une dame blanche dans un château qui, de temps en temps, deux à trois fois par an, hante les murs de ce château. Certains visiteurs l'ont vu. Moi, j'y suis allée deux, trois fois, je n'ai pas eu cette chance. Donc, je me dis finalement que tout au long de la France, il y a des dames blanches, alors, qui ont plus ou moins souffert parce qu'elles ont été enfermées, parce qu'elles ont été maltraitées, parce qu'elles n'arrivent pas à s'élever et que finalement, elles continuent de hanter les lieux. Mais... en fait, ce livre aussi, c'est une grande poésie. C'était un grand livre de poésie. Et mon Dieu, que ça fait du bien, aujourd'hui.
Ben, je vous remercie. C'est vrai que ce qui était visé, en somme, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver des synonymes ou pour expliquer où allons-nous, finalement, suivant cette biche blanche du livre. Mais ce serait ce qu'on peut appeler le temps subtil, c'est-à-dire justement parler de l'enfance, c'est pas tout à fait l'enfance.
Autant suspendu, autant suspendu aussi.
oui, un temps au-dessus, un âge d'or.
C'est ça.
Un âge d'or, alors évidemment qu'on a connu ou pas, peut-être qu'on a rêvé de cet âge d'or quand on était enfant, et on le retrouve adulte. On est guidé justement par ces plantes, par ces arbres un petit peu tourmentés. Et on a l'impression qu'ils sont tourmentés parce qu'ils supportent un ciel tellement chargé justement de tas de personnages, de féeries. Donc on essaye de trouver ce monde plus chatoyant que la période actuelle, si on peut dire.
Ça c'est sûr. Et alors en regardant les images, toutes ces photos, il y a une chose qui s'est imposée à moi subitement, peut-être que je l'avais déjà ressenti, mais en fait je me suis dit, quand on arrive sur un château en ruine ou pas, et grâce à votre livre, je me dis finalement, les châteaux nous regardent, ils nous observent. Vous savez, je me dis que parfois ils doivent bouger comme ça, j'imagine qu'ils ont des bras, des têtes et qu'ils remuent ou qu'ils nous accueillent ou ils sont accueillants ou pas. Et finalement, grâce à vos photos, je me suis dit, mais finalement, les châteaux, les édifices nous regardent. Ils nous regardent nous approcher, les regarder, les admirer. Ils sont vivants.
Oui, et c'est un phénomène même. Alors, il y a les pierres, il y a les troncs d'arbres, les feuilles, les nuages, vous savez, c'est l'appareil d'Oly, c'est le thème un peu scientifique qu'on donne à ces phénomènes de choses qui apparaissent. Alors, évidemment, ce sont principalement des visages que les enfants et puis plus tard les adultes reconnaissent dans la forme des nuages ou sur un petit peu la surface des arbres, sur le tronc des arbres, dans les sinuosités, l'écorce. Et alors, pareil, eidoli, il y a le mot grec eidolon qu'on retrouve, c'est cette expression qui veut dire, alors, bon, pour les Grecs, l'eidolon était un peu l'apparence, mais l'apparence fausse, mais une image, en somme, mais une image du mort. Et donc, voilà, voyez, les choses ne sont pas tranchées. Pourquoi les vents tout d'un coup font que le nuage prend cette forme.
Oui.
Est-ce que c'est un phénomène purement de plaisir qu'on se dit qu'on reconnaît tel ou tel personnage ou forme, ou bien est-ce qu'il y a effectivement une part dans le climat, dans la géologie, une sorte de un petit peu de destin, de destinée. Bon, ça c'est la ligne, la ligne jolie qui se dessine, s'oublie. Bon,
c'est vrai.
La poésie en somme, comme vous
la
dites.
Poésie, oui. Mais moi, ça m'a fait ça il y a pas très longtemps avec un arbre de mon jardin. Non, mais c'est idiot. C'est un poirier qui rien de plus banal. Et j'ai perdu mon petit chien il y a quelques mois. Et dans cet arbre, j'ai vu la silhouette de mon petit Yorkshire. Et alors, je l'ai gardé pour moi un petit moment. Puis au bout d'un moment, je l'ai dit à mon mari. J'ai dit, écoute, c'est idiot ce que je vais te dire, mais là, je vois la tête. Et alors, lui, il a regardé, il a rien vu, mais il m'a dit, mais pourquoi pas? Il m'a dit, pourquoi pas, que c'est peut-être un signe de notre chien au travers de cet arbre. Voilà. Et en lisant votre livre, je me dis, mais après tout, c'est possible, c'est pas mon imagination. Voilà.
Il faut bien un support. Dans les contes, il y a le miroir magique.
Ben oui.
Il y a souvent effectivement du cristal. Il faut quelque chose de pur. Là encore, on revient à ces matières nobles, donc le bois, l'eau, et puis donc effectivement l'eau qui est contenue dans ces gouttelettes des nuages. Donc effectivement, il faut un support pour pouvoir lire, et ensuite on lit ce qui nous traverse l'esprit. Si ça nous traverse l'esprit, c'est que manifestement, ça devait s'y trouver à ce moment-là.
Oui, je suis bien d'accord. Alors, où allez-vous déposer vos prochains appareils photo? Quelle merveille nous réservez-vous comme album? Dites-nous un petit peu.
Ah, ben alors, pour l'instant, il y a un projet avec un éditeur qui s'appelle Magellan et compagnie, qui est un projet alors autour de l'Écosse de Merlin.
Donc là, le rêve.
puisque donc Merlin, en somme, est né dans l'actuel pays de Galles.
Oui.
Donc Merlin est gallois, le Merlin Will est gallois, vivait au 5e, 6e siècle et il est mort. Enfin, je ne vais pas évidemment là aussi me lancer dans toute cette histoire.
Oui.
Mais disons que Merlin est mort en Écosse, un peu en homme sauvage, et il est devenu bien plus tard le magicien du Graal. Donc là, j'essaye de retourner aux origines de l'enchanteur. Ça c'est le projet. Et puis pour ce qui concerne les prochains voyages, eh bien pour l'instant je regarde aussi du côté de l'Angleterre, de l'Irlande.
Et oui,
je suis vraiment attiré par ce climat.
Ouais, moi aussi. Et donc ce serait quand ce projet avec Magellan, courant 23?
Ça serait courant 23. En somme, cette quête a été accomplie, comme on dit, il y a 2 ans maintenant, presque 4 ans pour la première partie, presque 5 ans. Donc elle a bien mûri, et c'est vrai que les choses, de même que pour ce livre finalement, La France fantastique, qui est avant tout un livre de l'enfance, eh bien c'est important qu'il y ait un temps un petit peu après le voyage pour développer. Alors, moins les photographies, parce que je ne développe pas argentique, mais en tout cas, l'écrit et se laisser porter par ces souvenirs, la création des souvenirs, qui, même quand on ne les écrit pas, finalement, on les recompose soi-même. Nous sommes tous un petit peu les auteurs de ce passé, en fonction de ce que l'on transforme. Et donc ça, ce sera courant 2023.
Eh bien, en tout cas, tenez-moi au courant. Ce sera un grand plaisir de vous retrouver, Dimitri de la Roque-la-Tour. En tout cas, ce livre, La France fantastique, j'en bafouille d'émotion, 40 itinéraires au pays des fées, aux éditions Gallimard. Ça a été un vrai bonheur de vous rencontrer grâce à ce livre, et j'espère qu'on aura plein d'autres aventures littéraires ensemble en 2023 pour une nouvelle aventure aux éditions Magellan. Voilà, je compte sur vous.
J'ai été enchanté par cette conversation et par votre accueil, votre discussion chaleureuse.
C'est avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, Dimitri, et à une prochaine fois. Merci en tout cas pour ce beau voyage.
Merci.
Quant à nous, bien, je vous invite à nous retrouver pour de nouvelles aventures littéraires. Je vous souhaite de nouveau un joyeux Noël. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, n'oubliez pas que la vie peut être un rêve. Tout dépend ce que l'on veut en faire. Merci. À très bientôt. Au revoir.